9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Ce qui s'est passé cette semaine, c'est un peuple qui parvient à pousser son président à la démission sans violence.
Depuis la venue de Bouteflika, le peuple algérien, il a vécu les malheurs du monde. Aujourd'hui, on a plié avec l'histoire de Bouteflika. On va commencer de construire un pays comme tous les pays du monde.
Abdelaziz Bouteflika quitte la scène sur laquelle il est apparu il y a près de 60 ans au sortir de la guerre d'indépendance comme numéro 3 du régime. Hier, premier vendredi post-Bouteflika et à nouveau des foules immenses dans toutes les grandes villes pour que dégage le système dans son ensemble. Mais de quoi peut accoucher la révolution algérienne? Le journaliste et écrivain Kamel Daoud avec nous dans un instant. En Iran, elle est la voix des anti-voiles. L'avocate Nasrin Sotoudeh, emprisonnée pour incitation à la débauche, condamnée à 38 ans de prison et 150 coups de fouet, continue de tenir tête au régime des Mollahs et commence à susciter un début de mobilisation internationale en sa faveur. On en parlera avec la spécialiste de l'Iran, Azadeh Kian. Au générique également, la romancière Lydie Salver, prix Goncourt 2014 pour Pas pleurer. Elle a passé une nuit au musée Picasso, oui, comme Kamel Daoud, et le raconte dans « Marcher jusqu'au soir ». Et puis Arthur Ashe, qui raconte la fuite et l'extraordinaire audace de sa mère adolescente dans « Fugue ». Le livre vient de paraître au Mercure de France.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Il était la dernière figure de la guerre d'indépendance algérienne et le dernier chef d'État en exercice à avoir connu le général de Gaulle, aujourd'hui vieux monarque inerte, hier jeune ministre fringant, Bouteflika, qui est enfin devenu président en 99, et au micro de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1, ne récuse pas la comparaison avec de Gaulle.
De Gaulle, c'est De Gaulle, et moi, c'est moi.
Non, mais
de
vous Gaulle, beaucoup, vous le citez beaucoup.
Non, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour le général, pour une raison très simple, c'est que j'étais le premier Algérien indépendant qu'il rencontrait. Il a commencé son entretien par « Vous et moi, nous nous respectons bien, parce que d'un côté comme de l'autre, nous nous sommes bien battus. » Alors, on ne pouvait pas ne pas tout de suite discuter, passer à l'essentiel du sujet.
Bonjour Kamel Daoud.
Bonjour.
Elle vous parle cette histoire-là, elle parle encore aux Algériens, l'histoire de ces hommes qui ont conquis par les armes l'indépendance de leur pays pour ensuite parler d'égal à égal avec le général de Gaulle.
Ça reste quand même le récit national, le récit fondateur, le récit d'une épopée pour l'indépendance. Mais il ne s'agit pas de ça, ce qui est débattu en Algérie maintenant, c'est ce qu'on fait, ce qu'on a fait et de cette épopée-là et qu'est-ce qu'on a fabriqué de cette légitimité-là. C'est-à-dire c'est ce que j'appelle moi les décolonisateurs en chef. Ce sont des gens qui ont été incapables d'aller vers l'avant, d'aller vers le présent. Donc c'est une histoire qui nous parle, mais qui ne nous parle pas de la même manière que cette génération-là.
Oui, parce que c'est un système qui a été dévoyé depuis, et un régime qui s'est dévoyé depuis longtemps, à vos yeux.
C'est un régime qui a fondé sa légitimité sur le récit de la guerre de libération, et depuis, il n'a pas bougé. C'est un régime qui a refusé la filiation, qui a refusé d'avoir des enfants, qui nous a refusé, nous, enfants de l'indépendance, et qui a voulu s'éterniser et rester là, et refuser la mort et la transition.
Bouteflika qui a demandé pardon aux Algériens dans une lettre rendue publique au lendemain de sa démission, vous pardonnez ?
Non. Je ne pardonne pas, parce que il a participé à me voler les meilleures années de ma vie. Et ça, il ne peut pas me les rendre. J'ai vécu la guerre civile entre mes 20 ans et mes 30 ans. J'ai vécu les années Bouteflika entre mes 30 ans et 40 ans. Ça, il ne peut pas me le redonner. Il ne peut pas me rembourser. Je suis désolé de dire ça, mais je n'arrive pas à pardonner.
Alors, je disais, Kamel Daoud, Bouteflika poussé dehors par son peuple sans la moindre violence, c'est un miracle. Ce serait un miracle, mais est-ce que ce n'est pas une fois de plus l'armée, les chefs militaires qui ont baissé le pouce?
Écoutez, je ne pense pas que l'armée aurait pu faire quoi que ce soit s'il n'y avait pas des millions d'Algériens dans les rues.
Bien sûr.
Ça aurait été impossible. L'armée n'aurait pas pu bouger. Bouteflika a réussi, ou le système Bouteflika a réussi quand même à dissoudre ce qu'on appelle en Algérie le cabinet noir, ce cercle de généraux fabricants et fabricants de présidents. Mais je pense que le chef d'état-major n'aurait rien pu faire s'il n'y avait pas pendant 6 semaines des Algériens dans les rues à manifester pacifiquement et avec beaucoup d'aspects magnifiques et de festives et très, très, très unis autour d'une revendication.
Mais vous connaissez l'histoire de votre pays, Kamel Daoud. C'est l'armée qui a déposé Ben Bella en 65, qui a fait barrage à Bouteflika en 79, qui a fait partir Chadli Ben Jadid en 92, qui a choisi Lyamin Zeroual en 94, avant de rappeler Bouteflika en 99. Ça fait un demi-siècle que l'armée
tout à tirer fait. Les ficelles en
mais,
Algérie.
Mais, tout à fait. C'est une armée
ça
qui...
Ça peut changer ?
Bien sûr, on espère que ça change, mais je ne veux pas en faire une fatalité aussi. Il y a 6 semaines, si vous m'aviez dit que les Algériens allaient se soulever contre Bouteflika, je n'aurais pas cru. Et puis, c'est arrivé, et c'est le cas maintenant. Donc, je n'aime pas lire l'histoire comme une fatalité. L'armée est au centre du jeu politique en Algérie, c'est tout à fait vrai, parce que c'est une armée qui est née d'une guerre d'indépendance. Donc, elle a une sorte de mystique de son rôle. C'est une armée qui aime se placer comme arbitre des conflits, et des grands conflits qui menacent l'intégrité du territoire. Mais on aimerait croire que pour le futur, qu'elle reste dans ses casernes. C'est ce qu'ont demandé hier les Algériens pour les manifs du vendredi, du 7e vendredi. C'était l'armée, on respecte, l'armée, on aime bien, l'armée défend le territoire, mais l'armée ne fait pas de politique.
Et l'armée peut éventuellement encore trouver ruse ou astuce pour perpétuer son emprise sans que ça se voit trop ?
C'est très possible, mais je pense que pour le moment, on a évité la case libyenne, on a évité la case syrienne, on a évité la case yéménite. On est dans la case égyptienne et j'espère qu'on va se diriger vers la case tunisienne.
L'égyptienne, c'est-à-dire un peuple qui renverse son despote, c'était Moubarak, mais qui se voit remplacé par un maréchal, Sissi, en l'occurrence.
Exactement, exactement. Dans le cas de l'Algérie, j'y vis, je peux peut-être en parler pas d'une manière très, très spécialiste, nous sommes très conscients des erreurs commises dans les autres pays qu'on dit arabes. Nous avons vu ce que ça donne de faire la moindre petite erreur. Nous avons vu ce que ça donne de manifester dans la violence, par exemple, de déléguer ses propres colères aux islamistes, aux radicaux, de faire trop confiance à l'armée. Nous essayons de tirer le sang de ce qui s'est passé ailleurs.
Kamel Daoud, invité de C'est arrivé cette semaine. On vous retrouve dans 1 minute 30. On va se demander sur quoi peut déboucher cette révolution algérienne.
Europe 1, 9h-10h, C'est arrivé cette semaine. Europe 1.
Jusqu'à 10h, vous écoutez Patrick Cohen avec C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
Avec notre premier invité, le grand écrivain algérien Kamel Daoud, pour évoquer la révolution en cours dans son pays. Révolution, oui, Kamel Daoud, le mot n'est pas galvaudé.
Non, il n'est pas exagéré. C'est vrai qu'il a perdu de son prestige un petit peu. Dire révolution, dire printemps, c'est quand même assez inquiétant pour beaucoup de monde. Mais je pense que les Algériens ont réussi plus ou moins à redorer le sens du mot. C'est une révolution.
Vous arrivez de votre ville d'Oran, c'est comme ça que c'est perçu ?
Oui, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'une revendication exclusivement politique. Il y a quelque chose de festif, comme je le disais souvent, il y a quelque chose de l'ordre de la récupération et de la réappropriation. On est en train de revivre une aventure magnifique, c'est celle d'être vraiment propriétaire de son propre pays. Avant, nous possédions nos maisons, mais pas la rue, pas l'espace public, pas les grandes salles, pas la route, pas les champs. Maintenant, les Algériens nettoient leurs rues, pas parce qu'il y a seulement un souci écologique, mais parce qu'ils se sentent propriétaires de leur pays. Pour une fois, nous avons un pays. Nous n'avons pas seulement des maisons.
Et donc, c'est une révolution qui, pour l'instant, est en train de réussir.
Pour le moment, elle est en train de réussir. On le vit avec beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup d'inquiétude, parce qu'il suffit de rien pour qu'on se fasse voler.
Bon, hier, en tout cas, les Algériens ont continué de vendredire néologisme magnifique qu'ils ont inventé sur les réseaux sociaux. Vendredire, c'est-à-dire manifester joyeusement. Chaque vendredi.
Exactement, sachant que le vendredi était la journée la plus ennuyeuse en Algérie, la plus triste. Celle qu'on avait toujours envie d'enjamber pour déboucher, arriver au samedi très très vite. Et maintenant c'est devenu le lieu des rencontres aussi, les lieux des histoires d'amour qui commencent, les lieux où les gens chantent, où les gens ont des couleurs, défendent des couleurs, où ils inventent, réinventent la langue avec un humour extraordinaire, avec des slogans. Bon, tout n'est pas rose, bien sûr, parce que quand on est des millions à sortir, il y a des petits incidents de part et d'autre, il y a des radicaux qui essaient de récupérer un petit peu le mouvement ou de concentrer sur eux l'effet de loupe des médias, mais dans la réalité, c'est une réappropriation, non seulement du politique, mais aussi de l'espace.
Que peut-il se passer maintenant ? On est dans une période cruciale, il y a 90 jours, donc 3 mois de transition. Comment voyez-vous les choses ?
Écoutez, je suis quelqu'un qui croit qu'il faut fabriquer l'avenir au lieu de le lire. Donc, il y a une part d'inconnu qui est angoissante, mais c'est justement la garantie que tout est possible. Il se pourrait que l'armée veuille rester au pouvoir, c'est vrai. Il se peut aussi que les islamistes puissent voler notre révolution. Ce sont de grands cambrioleurs des révolutions. Il se peut aussi qu'une vague de populisme, comme cela s'est vu dans d'autres pays, puisse s'accaparer et capter ce mouvement-là. Mais il se peut aussi que nous puissions réussir à lancer une transition capable de redresser un petit peu les choses et de relancer l'économie du pays surtout, et de créer une légitimité basée sur la vraie représentativité politique, sur la légitimité de ce qu'on fait maintenant, pas de ce qu'on a fait pendant la guerre de libération.
Quand vous dites fabriquer l'avenir, Kamel Daoud, on se demande si vous pourriez en être un acteur, vous n'êtes pas une figure politique, vous êtes une voix, une plume, une conscience, vous avez forcément été sollicité pour jouer un rôle, non, dans cette période ?
Écoutez, j'essaie de jouer un rôle depuis 20 ans. À l'époque où les gens désespéraient, je me suis fait un devoir de défendre l'espoir. Et maintenant que les gens espèrent trop, je me fais un devoir de défendre la lucidité. J'essaie de faire, dans mon métier, être témoin, être acteur, mais aussi de défendre l'idée que je me fais de l'avenir. J'ai des enfants, ça me donne toute la légitimité pour essayer de participer à cet avenir-là. Donc, j'essaie d'y participer et je le fais. Je le fais par mes livres, je le fais par mes articles, par ma présence dans mon pays, ouais. Par mes conférences. J'essaie d'apporter ce que je peux. Il y a des gens qui font beaucoup mieux, il y a des gens qui font moins, et je me place un petit peu au milieu.
Oui, mais enfin, vous voyez bien que cette société civile, elle essaye de se trouver une figure ou des figures qui peuvent incarner l'avenir politique de ce pays. Et c'est
tout à fait normal. Le régime a toujours refusé qu'il ait l'émergence de leadership alternative à, à ses propres figures. Donc pour qu'on puisse accepter de nouveaux leaders, ça va prendre un peu de temps.
Bon, on a parlé d'un néologisme qui était « vendredire ». J'ai entendu dans votre bouche un autre néologisme, c'est la débouteflicaïsation.
La déstalinisation.
Déboutefliquer l'administration.
Pas uniquement l'administration, les chancelleries, les banques, la haute administration, la gestion locale, beaucoup de choses, parce qu'une dictature, ce n'est pas quelque chose qui existe dans l'air, ce n'est pas quelque chose qui est détaché, une dictature c'est une machine. Donc faire tomber le régime bon, en chassant et en poussant à la porte un dictateur, c'est bien, mais maintenant reste tout le travail à faire. Et le souci pour moi en tant qu'Algérien, c'est comment débouteflicaiser le système sans précipiter l'effondrement de l'État. Parce que nous, on ne veut pas l'effondrement de l'État. Et c'est pour ça que je prends un peu de patience, un peu de prudence aussi. On ne veut pas que le régime, quand il tombe, nous tombe sur la tête.
Kamel Daoud, je rappelle votre dernier livre, Le peintre dévorant la femme, chez Stock. Vous voulez bien rester encore un peu dans ce studio? Dans un instant, on va accueillir Lydie Salvert, qui a pris votre suite en passant une nuit au musée Picasso, comme vous l'aviez fait pour ce livre. Et on va évoquer le sort de Nasrin Sotoudeh, courageuse avocate iranienne militante des droits humains, condamnée à des décennies de prison et de coups de fouet pour avoir défendu des femmes qui ont retiré leur voile.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Europe 1.
C'est arrivé cette semaine, continue jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Avec l'écrivain algérien Kamel Daoud et la tragédie d'une femme dont le courage force l'admiration. Nasrin Sotoudeh, avocate iranienne de 55 ans, militante de longue date pour les droits humains, prix Sakharov 2012 du Parlement européen, déjà emprisonnée pour avoir défendu des opposants lors des manifestations de 2009. Arrêtée à nouveau en juin dernier, Nasrin Sotoudeh vient d'être condamnée à 12 ans de prison supplémentaire pour avoir été l'avocate de femmes qui avaient retiré leur foulard en public. 38 ans de réclusion en tout, plus 148 coups de fouet pour s'être présentée au tribunal sans le voile islamique obligatoire. On est en ligne avec une spécialiste de l'Iran et professeure à Paris 7. Bonjour Azadeh Kian.
Bonjour.
C'est vraiment pour avoir défendu des Iraniennes qui s'opposaient au voile, pour avoir été la voix des anti-voiles que Nasrin Sotoudeh se retrouve à nouveau en prison?
Écoutez, Nasrin Sotoudeh, comme vous le savez, défend les droits humains, y compris les militantes ou les femmes qui refusent de porter le voile obligatoire. L'un des chefs d'accusation à son encontre est la propagation de la prostitution, entre guillemets. Ouais. Donc elle est effectivement accusée de les avoir défendue, soutenue, mais elle est par ailleurs aussi accusée d'espionnage, accusée d'avoir mis en péril la sûreté de l'État. Donc malheureusement, la liste des accusations est vraiment très très longue.
Ce qui fait en tout, tout cumulé, 38 ans de prison, incitation à la prostitution, ce qu'on traduit parfois aussi en français, incitation à la débauche. Pourquoi ? Parce que le régime islamique en Iran s'est construit en partie, d'abord, sur l'obligation du port du voile.
Écoutez, à peine un mois après la victoire de la révolution, et contrairement aux promesses de Khomeini, qui à l'époque était le leader de la révolution, la première mesure qui a été appliquée était l'obligation du port du voile et aussi le changement des lois qui avaient été votées sous le Shah et qui octroyaient un certain nombre de droits aux femmes, donc notamment en matière de droit civil. Donc effectivement, le voile islamique est le premier symbole de l'installation du régime islamique et de ce fait a une importance pour ce régime. Et donc les femmes qui ont osé d'ôter leur voile et de le mettre sur un bâton sur la place publique, de l'ajouter en signe de protestation, effectivement, est considérée comme portée contre les fondements du régime. Mais à cela s'ajoute le fait qu'il y a aussi des centaines de milliers de femmes, pas seulement à Téhéran, mais aussi dans d'autres grandes villes de l'Iran, qui portent mal le voile en signe de protestation contre l'obligation de le porter, et ce depuis 40 ans, depuis le début. Mais le port du voile obligatoire va main dans la main avec des lois discriminatoires à l'encontre des femmes. Donc l'arrestation et la condamnation lourde de Nasrin Sotoudeh, qui, comme vous le savez, est une icône de la société civile iranienne, est une mesure d'intimidation de l'ensemble de la société civile qui s'agite maintenant depuis de nombreuses années contre les exactions commises par l'État islamique d'Iran, l'État dont la légitimité est contestée. Et donc cet État, ce régime craint de plus en plus les émeutes, les mesures d'intimidation à l'encontre de l'ensemble des défenseurs des droits humains, effectivement.
Un mot encore sur Nasrin Sotoudeh, qui connaissait les risques, qui a déjà été emprisonné, qui aurait pu, même si on lui avait confisqué son passeport, qui aurait pu choisir l'exil, qui aurait pu tenter de fuir son pays, elle ne l'a pas fait, c'est une femme courageuse.
C'est une femme courageuse, absolument. Elle aurait pu quitter le pays comme tant d'autres qui l'ont fait. Elle a préféré de rester sur place et de se battre. Et donc, effectivement, de ce fait, elle est très, très respectée, aussi bien en Iran qu'au sein de la diaspora.
Merci beaucoup, Azadeh Khan, spécialiste de l'Iran, professeur à Paris 7. Je rappelle votre dernier livre, Femmes et pouvoir en islam, chez Michel Long. Merci à vous.
Merci Patrick Cohen.
Kamel Daoud, qu'avez-vous à dire?
Écoutez, peut-être rapidement, et trois choses. D'abord, c'est un rappel tragique de ce qu'est la définition d'une vraie dictature. Et la deuxième des choses, c'est un rappel aussi à ceux qui disent que porter un voile, c'est un exercice de liberté. Ce n'est pas de la liberté. Et la troisième des choses, c'est un rappel pour rappeler aussi aux gens que les radicaux religieux ne sont pas des gens obsédés par Dieu, mais ce sont des gens obsédés par la femme. Et c'est quelque chose de tragique. Je n'ai pas de mots pour parler de tout cela, parce que c'est indécent de mettre des mots sur une tragédie aussi profonde, sur une injustice aussi profonde. Ça me bouleverse.
Oui, c'est bouleversant. Et près de 250 000 Français ont signé la pétition en ligne déjà sur change.org pour demander la libération de Nasrin Sotoudeh. Un dernier mot, Kamel Daoud. Aviez-vous déjà rencontré Lydie Salvaire?
Alors, nos chemins se croisent, nos personnes ne se croisent pas. C'est la première fois que je rencontre Lydie Salvaire, et avec plaisir.
Bonjour Lydie Salvaire.
Bonjour.
Auteur, entre autres, de La Compagnie des Spectres et de Pas pleurer, prix Goncourt 2014, prix que vous avez obtenu face au livre de Kamel Daoud, Meursault contre enquête à une voix de majorité. Vraiment, je ne l'ai pas fait exprès de vous réunir tous les deux aujourd'hui. Kamel Daoud, tout est pardonné.
Mais absolument, il n'y a rien à pardonner quand même.
Lydie Salvaire.
Non, mais je suis très heureuse de rencontrer Kamel Daoud, bien sûr.
Alors, vous avez un autre point commun, c'est que vous avez fait l'une et l'autre. Vous avez subi la même expérience. Une nuit au musée Picasso à Paris, vous étiez venu nous en parler, Kamel Daoud, en octobre dernier, très inspiré par les chefs-d'œuvre érotique du maître. Lydie Salvaire, nettement moins inspirée, on va en parler, par L'homme qui marche de Giacometti, parce que c'était une exposition de Giacometti au musée Picasso.
Mais je me disais, en écoutant ces choses si graves dont nous venons de parler, que l'art était bien peu de choses, et que les colères que j'évoque dans ce livre, Marcher jusqu'au soir, sont des colères de riches.
Ah,
mais bon.
Elles ont aussi leur importance, et puis ça nous renvoie à notre intimité, et donc à nos intimités, et à nos personnalités, à nos vies. On en parle dans un instant. Merci beaucoup, Kamel Daoud, d'être venu ce matin en direct au
Merci
micro d'Europe 1.
Vous.
Et à tout de suite avec Lydie Salvaire.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine. Europe 1.
Comme chaque samedi, on vous retrouve, Patrick Cohen, avec C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
Et donc avec Lydie Salvert qui, comme Kamel Daoud, est à l'invitation de l'éditrice Alina Gurdiel à passer une nuit au musée Picasso. Cela donne ce livre, Marcher jusqu'au soir chez Stock, qui est une sorte de miracle parce que pendant les 50 premières pages, Lydie Salvert, vous détaillez toutes les raisons pour lesquelles ce livre ne devrait pas exister.
Oui, je m'attends à un éblouissement, à un émerveillement quand je suis dans ce musée Picasso la nuit et seul. Or, je n'éprouve qu'un vague malaise, une vague appréhension. Et du coup, cette nuit au musée qui devait être merveilleuse devient une nuit de questions.
Oui.
Pourquoi cette insensibilité devant les œuvres d'art? Qu'est-ce qui la commande? Est-ce que je me suis menti jusque-là? Est-ce que la collusion de l'art dit contemporain avec la finance me met dans un état de colère tel?
Oui, il y a une sorte de, il y a une série de préventions au départ, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'hostilité à l'art contemporain, vous venez d'en parler, et même à l'idée de musée. Est-ce que vous rêvez vraiment d'un peuple qui arracherait ses œuvres à leurs tristes enclos, à leurs prisons, à ces hospices pour chefs-d'œuvre où elles sont confinées, écrivez-vous, Lydie Salvert?
Mais vous savez, puisque Kamel Daoud est là et que nous avons parlé des grandes manifestations en Algérie, un des slogans que j'ai vu à la télévision, c'est FLN au musée.
Oui, eh ben...
Ce qui veut bien dire que le musée est un lieu de mort, de relégation, et qu'on se prend à rêver d'un art qui serait dans la rue, dans la vie des gens.
Vous écrivez dans les hôpitaux, les gares, les terrains vagues, sur les murs des cités.
Certains le font, mais la haute finance a mis la main, vraiment, sur l'art dit contemporain, si bien qu'elle nous a fait croire qu'il n'y avait que cet art-là qui comptait.
Alors, Giacometti, c'est pas son cas, quand il a créé ses grandes œuvres. Alors, on va expliquer que vous jetez votre dévolu et votre lit de camp au pied de l'homme qui marche, célèbre sculpture en bronze d'Alberto Giacometti, silhouette filiforme d'un homme en mouvement, regard pointé vers l'horizon, mais une fois enfermé seul à seul avec la sculpture, il ne passe rien.
Il ne se passe rien malgré l'admiration que je porte à cette figure qui est pour moi une des images de la condition humaine la plus bouleversante, c'est-à-dire un homme harassé par ses luttes pour la vie, décharné, fragile, vulnérable et en même temps marchant, car marcher c'est vivre, c'est s'éprouver vivant. Et ces deux dimensions de cette figure me bouleverse vraiment.
Oui, mais dans un premier temps, sur place, vous avez envie de partir. Vous vous demandez que ce jeu venu foutre ici. Vous écrivez sur votre carnet en lettres capitales « Regardez ses œuvres, m'est une corvée, je me fais violence en continuant cette expérience à la con ». Bon, il y a quand même quelque chose qui vous parle, et vous venez de l'évoquer, Lydie Salvert, c'est la fragilité des êtres humains, symbolisée dans cette sculpture.
Bien sûr, et toutes les fragilités... familiales, par exemple, me reviennent à l'esprit, et notamment la fragilité de ce père, dont réfugié politique espagnol, humilié parce qu'il a été un señorito dans son adolescence et qu'il devient un ouvrier fatigué en France.
Et un tyran domestique.
Et qui va faire, une décompensation sur le mode paranoïaque, être interné à l'hôpital psychiatrique. Et... il me revient évidemment des souvenirs durant cette nuit-là, mais avec cette chose, je me dis que d'avoir grandi auprès d'un père paranoïaque m'a rendu extrêmement sensible à toute forme d'autorité, vraiment. Et au fond, c'est une bonne chose.
Sensible, c'est-à-dire
Rétive, ce serait plus juste.
L'autorité, alors donc des terreurs d'enfance, vous venez d'en parler, ce père dont vous souhaitiez chaque jour la mort immédiate, et des terreurs modernes aussi, le sentiment de ne pas être à la hauteur de ses sublimités, écrivez-vous, le sentiment d'être dans un état d'hébétement profond comparable à celui qui me terrassait lorsque j'étais filmé à la télévision, c'est-à-dire l'exercice qui consiste à ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire prendre la parole pour évoquer vos œuvres.
J'ai toujours une vieille appréhension d'enfance parce que mes parents parlaient un français de guingois et enfant, j'ai encore le souvenir d'humiliation lorsque je déforme le français de racine, et c'est quelque chose qui reste envers et contre tout, c'est étrange. que j'ai du mal encore à dominer. Cette appréhension de parler et de mal dire, qui, comme ma mère le faisait à longueur de journée, puisqu'elle détruisait la grand-mère française avec allégresse.
Vous dites que vous êtes plus à l'aise avec l'écriture. Qu'est-ce qui fait que finalement, cet homme qui marche, mais peut-être après coup, après être sorti du musée, vous renvoie à votre maladie et à votre propre mort?
Oui, parce qu'il dit quelque chose de la condition mortelle, cet homme qui marche aussi. Giacometti lui-même étant obsédé par l'idée de la fin, par l'idée de la mort, par l'idée de la vulnérabilité, par l'idée de la finitude. Et ça me renvoie évidemment à ma condition de malade, puisque je suis encore suivie à Curie, avec des femmes qui marchent, qui sont...
Et traitées en chimiothérapie, je le dis, parce que vous l'évoquez dans votre livre.
Je ne l'avais jamais dit, je crois, dans un livre.
Pas dans un livre. Non.
Cette nuit-là, des vannes se sont ouvertes, c'est ce dont je me suis rendu compte, dans la solitude et le silence.
Ce qui vous parle aussi chez Giacometti, c'est sa biographie, sont ses paroles, sa façon d'être modeste, qualité que vous avez érigée, vous, en vertu.
Non, mais je n'ai jamais vu un artiste aussi modeste qui ne cesse de dire qu'il rate, qu'il est nul, qu'il n'y arrive pas, qu'il n'est pas sculpteur, qu'il n'est pas peintre.
Ça vous touche.
Mais bien sûr, quand on voit l'arrogance de certains.
elle est très répandue, cette arrogance.
Assez. Me semble-t-il, je ne sais pas, mais Kamel a peut-être aussi un avis là-dessus. Mais...
Lydie Salvert, marchait jusqu'au soir dans la collection Manui au musée chez Stock. Merci beaucoup,
Lydie
Salvert, d'être venue nous en parler. Et devant Kamel Daoud, ce sont deux grands écrivains qui se font face et je suis très fier de vous avoir réunis dans la même émission en direct ce matin. Merci à vous.
Merci. Europe 1.
Dans un instant, Arthur H, c'est un grand chanteur, il a un père célèbre, Jacques Higelin évidemment, mais c'est à sa mère, Nicole, qu'il rend hommage dans un livre poignant et très réussi. Fugue, à tout de suite.
Europe 1. De 9h à 10h, ça s'est arrivé cette semaine avec vous, Patrick Cohen.
Bonjour Arthur H.
Bonjour.
Vous avez déjà 30 ans de chansons, un recueil est paru il y a quelques mois avec tous vos textes, et voici un livre... Fugue, dans la belle collection 13 et portraits du Mercure de France qui publie des récits d'écrivains, de poètes en forme d'autoportraits. Mais ce que vous nous offrez d'abord, c'est le portrait magnifique d'une jeune fille de 17 ans qui brise les conventions et s'enfuit de sa famille et de sa banlieue avec une bande de copains, cette femme libre. C'est votre mère, Nicole. C'est d'abord un exercice d'admiration.
Oui, bien sûr. J'ai toujours trouvé que ma mère était une femme courageuse. Mais voilà, c'est un peu l'archéologie de son courage, de sa première prise de position, son désir vraiment puissant qu'elle n'a pas pu y résister de liberté, dans un milieu qui était plein d'amour, mais qui était très enfermant, un milieu ouvrier de banlieue, voilà, où tout était vraiment clos, en fait, c'était un monde clos.
On est à la fin des années 50.
On est fin années 50.
Un père ouvrier, perceur de métaux dans des conditions de travail épouvantables.
Ouais, épouvantables, très dur, après-guerre, quoi. Donc, être une femme à l'époque, c'était juste avoir aucune perspective, quoi.
Elle n'a pas le droit de sortir. Ouais. C'est en cachette qu'elle fréquente... un amoureux et une bande d'amis rêveurs, marginaux, subversifs.
Ouais.
C'était des hippies avant l'heure, en fait.
Ouais, plus ou moins, mais pas du tout branchés, quoi. C'était vraiment des gamins de banlieue. Le seul échappatoire, c'était les livres. Ils lisaient quand même. Ils avaient quand même accès à certains livres. Et en discutant, voilà, ils étouffent tous. Ils sont quand même malheureux. Et ils décident un jour, on ne sait pas comment ni pourquoi, comment ça arrive dans la conversation... Il décide de partir à Tahiti.
En radeau.
En radeau. Et quand j'ai dit à ma mère, mais putain, vous vouliez vraiment partir à Tahiti en radeau pour de vrai, quoi. Elle dit oui. Ouais.
Et finalement, ils vont échouer en Corse.
En Corse,
ouais, oui, pas 6 mois.
J'avais décidé qu'il fallait être un peu raisonnable quand même, et dans un premier temps, aller en Corse, et c'était que ça serait plus facile de construire un radeau dans une crique isolée.
Alors, il faut lire les lettres. Incroyable que cette adolescente de 17 ans adresse alors à sa mère, qu'elle écrit sur des cahiers d'écoliers dont certaines sont reproduites dans votre livre. « Maman chérie, n'aie pas de chagrin, C'est pas une fugue, tu comprends, c'est un départ vers une autre vie, car je ne peux plus supporter celle-ci. Maintenant, je suis très loin, dans un pays où règne la liberté. Ce n'est pas la peine de me faire rechercher par la police. Et si elle me retrouve, la police, je suis prête à attenter à la vie de n'importe qui, surtout de la mienne.
Ouais.
Elle est mineure, hein, parce que la majorité, c'est 21 ans à l'époque. Et ouais. Donc, elle est effectivement recherchée par la police, en vrai.
Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Et c'est tragique, quoi. C'est tragique. Et en plus, elle sait qu'elle va faire énormément de peine à ses parents. Et ça, ça la crucifie, quoi, vraiment. Mais cet élan de liberté est plus fort que la douleur de faire mal à ses parents.
Sa mère, qu'elle adore et à qui elle dit surtout ne pleure pas, sèche tes larmes, je vais être heureuse, je sais que tu souffres, mais 24 ans plus tard,
ouais.
24 ans plus tard, Nicole reçoit une lettre postée de Guadeloupe.
Ouais, ouais, ouais.
Chère maman, tu sais maintenant que je ne suis pas montée dans l'avion pour Paris. C'est signé Arthur. C'est une fugue immobile. D'abord, quand vous écrivez cela, Arthur H., vous avez 15 ans, bientôt 16. Vous connaissez l'histoire de votre mère, de cette fugue
Absolument pas. Pas du tout. J'ai jamais entendu parler. J'en ai entendu parler récemment, en fait. Il y a 2-3 ans, quand même, elle m'a raconté ça.
Elle ne vous l'avait pas raconté à ce moment-là.
À personne, d'ailleurs. Ouais.
Et donc, enfin, après coup, vous mesurez l'effet que ça peut produire chez votre mère, qui a elle-même connu ce type d'élan.
Ouais, effectivement, elle a fait du mal à ses parents, et moi je lui ai fait du mal aussi après, c'est terrible.
Oui, vous lui écrivez, mais c'est la similitude des formes est incroyable. D'abord, pardonne-moi, écrivez-vous, mais sache que je reviendrai bientôt, que j'ai été engagé comme mousse par le skipper du bateau, etc. Et puis il y a la même chose, n'aie pas de chagrin, ne t'inquiète
pas.
Oui. Alors, 15 ans quand même, on raconte le contexte, vous vivez avec votre mère, Nicole, vous partez aux Antilles pour les premières vacances passées avec votre père, Jacques Higelin. Et là, vous découvrez à la fois le rhum, l'amour charnel, les champignons hallucinogènes.
Oui, ça fait beaucoup. Enfin, le rhum et l'amour charnel, c'est après, quand j'ai fait la fugue.
C'est vrai.
Bah, c'était l'époque qui voulait ça. Hein. C'était pas très loin du mouvement hippie. Puis mon père avait aussi quand même pas mal aussi fait d'expériences en tout genre. Et du coup, j'ai pris des champignons hallucinogènes avec lui. Et c'était vraiment un voyage très, très initiatique pour moi. Et très perturbant, comme vraiment une nouvelle naissance, en fait. Et après, je ne pouvais pas imaginer de retourner au quotidien. Quoi.
Avec une autre figure célèbre, enfin, en dehors de votre père, celle de Coluche.
Ouais, c'était dans la maison de Coluche, ouais. Où, effectivement, il faisait des grandes fêtes. Je pense que ce n'était pas une époque du tout heureuse pour Coluche. Il était, au contraire, très malheureux. Mais ça l'empêchait pas d'organiser des énormes fêtes comme ça, un peu constantes, où il se perdait, en fait, dans ces fêtes.
Et puis la troisième fugue de votre livre, Arthur H., c'est l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach. Admiration, là aussi, pour un génie libre.
Depuis toujours, depuis quand j'avais 12-13 ans, j'écoutais du punk et de la cold wave, et j'écoutais déjà du Bach. Quoi. J'ai toujours écouté Bach toute ma vie, en fait. Donc effectivement, Jean-Sébastien Bach, comme tous les personnages historiques, c'est une espèce de statue du commandeur, un personnage sérieux, officiel, mais il y a un homme normal derrière qui était aussi, avec ses contradictions, épris de liberté, qui aussi, ça m'a frappé quand j'ai lu plusieurs livres sur sa vie, et qui est parti à pied aussi, qui a traversé 2 fois l'Allemagne à pied, et aussi à 15 ans. Donc je me dis que c'était l'art de la fugue.
Arthur H., une chanson... Pour illustrer cela, j'ai 3 propositions à vous faire. La boxeuse amoureuse, forcément, votre mère. Brigade légère ou la fuite dans les idées.
Comme je parle beaucoup de ma mère, j'aimerais bien écouter un petit peu la boxeuse amoureuse qui est effectivement, là c'était, oui, c'est l'année de ma mère, je lui ai écrit une chanson et un livre pour célébrer sa beauté.
La voici.
Boum boum la supercute. Percute son visage, mais jamais elle ne cesse de danser. Tomber, ce n'est rien, puisqu'elle se relève, un sourire sur les lèvres, un sourire. Sur les lèvres, elle esquive les coups,
La boxeuse amoureuse. Magnifique chanson d'amour à votre mère, Arthur H, qui a lu vos fugues.
Oui, elle était très fière. Alors, des fois, elle dit « Oh, mais ça, c'est pas moi. » Mais en fait, c'est tout ce qu'elle... Parce que je l'ai interrogé.
Bien sûr.
Et tous les faits qui sont dans le livre, à part, évidemment, quand je parle personnellement à Jean-Sébastien Bach, ça, malheureusement, ce n'est pas vrai, mais tout le reste est absolument exact. Et même si je l'ai poétisé un peu, bien sûr, je l'ai poétisé, mais ça reste quand même, tout est vrai, j'ai absolument rien inventé.
Fugue par Arthur H. au Mercure de France dans la collection 13 et Portraits. Merci d'être venu nous en parler, Arthur
H. Merci beaucoup, merci.
Retrouvez C'est arrivé cette semaine, tous les samedis de 9h à 10h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.